Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette émission Parole au présent. Au microphone, Claude Julien. Mon invité ce matin, c'est Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Nous allons échanger ce matin sur ce texte donc qui va être proclamé dans cette fin de semaine dans les églises. C'est celui de Zachée. C'est un texte qui est propre, disons-le tout de suite, à l'évangéliste Luc, hein, au chapitre 19. C'est un texte qui est très utilisé en catéchèse pour les enfants et aussi en éducation de la foi des adultes. Et je suis sûr, vous connaissant, que vous allez nous apporter quelques nouvelles pistes sur ce texte que, malheureusement, on est peut-être trop habitué à entendre.
C'est le cas de plusieurs récits. Oui, on est trop familier avec eux et on a de la difficulté à renouveler un petit peu. Alors oui, je vais essayer. Une des bonnes manières de renouveler le regard sur un récit très connu, c'est de le mettre en lien avec d'autres récits typiques d'un évangile, d'autant plus quand c'est un texte propre à un évangéliste. Alors peut-être, dès maintenant, faire des liens avec le récit de la semaine dernière, hein, où Jésus racontait, pour des gens qui se prenaient pour des justes et méprisaient tous les autres, racontait une parabole avec un pharisien et un publicain, si vous vous rappelez, qui allait prier au temple. Et il y a certainement des ressemblances. Rappelez-vous le publicain qui, dans la parabole, restait à distance, à l'arrière, un peu comme Zachée, un publicain qui reste à distance de Jésus. Le publicain qui est jugé comme un pécheur et qui en est un, probablement. Zachée qui est jugé par les gens comme un pécheur aussi. Voyez, il y a des liens, là. Ça peut aider à éclairer notre récit.
Bien. Alors, j'en fais lecture maintenant, c'est au chapitre 19 de l'Évangile de Luc. Jésus passait dans la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée, il était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Il se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant debout, dit au Seigneur « Voilà, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Alors Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Francine Robert, on trouve dans ce texte qui est propre justement à notre évangéliste Luc la présence de presque tous ses thèmes préférés, tension
entre les
rapports à l'argent et la relation aux autres, Jésus avec les pécheurs, plus la critique des gens, le salut, le pardon, la conversion, le fameux « aujourd'hui, joie », etc. Ça, c'est du bon Luc.
Ah, c'est du pur Luc, effectivement, et c'est clair que ce récit fait partie de ce qu'on appelle la source propre à Luc, qui traite régulièrement de ces thèmes-là. Par ailleurs, d'après François Beauvon, qui est l'exégète qu'on aime bien à citer, c'est très possible qu'il y ait des racines historiques derrière ce récit-là.
Il ne s'agit pas d'une parabole.
Non, non, hein? C'est le récit d'un événement.
C'est un événement.
C'est présenté comme le récit d'un événement.
C'est ça.
Tout à fait.
Et ce que vous dites, c'est que ça se pourrait que le personnage...
Oui, qu'il y ait derrière ce récit le souvenir d'un personnage connu de la première communauté chrétienne à cause des informations précises, un petit peu anecdotiques. Mais de toute manière, ça n'est jamais sous cet angle-là qu'on doit... à mon avis, s'intéresser à un récit d'évangile. Hein. S'il est dans l'évangile, c'est parce qu'il est retravaillé pour catéchiser les lecteurs et non pas pour rendre hommage à un chrétien connu de la première génération.
C'est pas anecdotique,
non, non.
Et pas un recueil de souvenirs, un souci catéchétique.
Absolument.
C'est bon de se souvenir de se rappeler de ça. Ouais.
Oui, parce que ça nous aide à l'aborder sous l'angle de la question, mais quelle est la construction catéchétique qui nous est présentée ici? Je termine un peu le lien avec le récit de la semaine dernière. C'était une parabole la semaine dernière. Hein?
Bon, ouais, voilà.
Et le publicain qui racontait Jésus, il retournait dans sa maison justifié et donc réconcilié avec Dieu. Mais la parabole s'arrêtait là, c'est-à-dire que ça ne se traduisait pas en acte.
C'est ça. Et alors qu'ici, elle se traduit en acte. La parabole est prolongée dans un événement.
Dans le récit d'un événement qui, cette fois, va se traduire par une conversion effective, une conversion qui, chez Zachée, se traduira dans un programme d'action. Alors, évidemment, il n'y a pas de lien effectif, là, événementiel, entre les deux, la parabole et l'histoire de Zachée. Mais on pourrait dire qu'il y a une sorte de proposition de continuité, en tout cas, que je me permets de faire. La conversion produit ce genre de fruits. On a l'histoire ici d'une conversion qui va produire des fruits. On a un récit assez bien construit. Hein? Zachée cherche Jésus, cherche à voir qui il est. Et Jésus cherche Zachée, nous dit la fin du récit. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
On est en présence de deux hommes qui se cherchent l'autre.
C'est ça. Et où l'identité de chacun des deux est l'objet de la recherche de l'autre. Zachée veut voir qui est Jésus. Jésus va dire qui est Zachée. C'est un fils d'Abraham. Zachée doit surmonter l'obstacle de la foule. Jésus aussi. On devra surmonter l'obstacle de la foule qui critique d'une certaine manière, doit passer par-dessus cet obstacle-là. Et on a l'initiative de Zachée d'abord, l'initiative de Jésus ensuite. Il y a une sorte de miroir hein, entre les deux personnages.
Oui, et ce qui me frappe, c'est à voir à quel point on donne des détails sur cet homme, sur Zachée.
Hein. Ouais.
L'évangéliste a beaucoup d'intérêt pour lui. Hein.
Ouais,
son nom, d'abord, sa profession, son statut économique, religieux, et même son statut physique. Hein. On en a rarement dit autant, quoi,
sur un personnage des évangiles. Effectivement, je pense qu'on en sait même moins sur Jésus jusqu'à
un
certain point. En tout cas, on
ne
sait pas grand-chose de son physique, alors que Zachée, on sait qu'il est petit, qu'il est riche, qu'il est pécheur, en tout cas, c'est ce que la foule dit, qu'il est collecteur d'impôts. Alors, j'ai refait le tour des informations par l'inverse. Donc, puisque ça n'est pas là comme souvenir ou pour faire plaisir à un Zachée vieillissant de la communauté chrétienne, d'autant plus que Luc écrit pour des Grecs et que Zachée est un nom hébraïque, on peut se dire que autant de détails sur l'identité d'un personnage est comme, pour moi en tout cas, un signal que la conversion se joue sur l'identité profonde de la personne. On a souvent tendance à considérer la conversion comme un changement dans l'agir. C'est sûr que ça atterrit dans un agir autrement. On le voit bien avec l'histoire de Zachée. Mais c'est d'abord...
Au niveau de l'être.
Au niveau de l'être. Mmh. La conversion, c'est une découverte de son identité profonde, finalement.
Bon,
et c'est se voir autrement soi-même.
Puis vous avez piqué ma curiosité. Vous avez dit même le nom veut dire quelque chose.
Oui,
j'aimerais
ça
vous entendre là-dessus.
En hébreu, c'est Zachée, le nom de Zachée, et ça veut dire, le pur ou l'innocent, celui qui est innocent.
Voyez-vous, moi, c'est la première fois que j'entends ça.
Ouais.
Hein? Le pur, celui qui est innocent.
Celui qui est innocent. Alors, c'est d'autant plus amusant.
Innocent au sens profond du mot, là, attention.
Pas au sens
québécois.
Effectivement. Qu'il est non coupable, effectivement. Mm-hmm. Et c'est d'autant plus ironique que ça vient à la suite. Hein. Il s'appelle Zachée et il est un chef de publicain. Ah, par définition, un chef de publicain, c'est surtout pas un pur et un innocent.
Ben non, ça va
donc,
pas ensemble.
Ça va. Il y a vraiment une contradiction forte. Donc le nom est frappant, je trouve. Peut-être rappeler un petit peu.
Oui, parlez-nous rapidement de ces. Qu'est-ce que c'est un collecteur d'impôts?
Oui, et ici on a un chef de collecteur d'impôts, alors que par exemple Lévi, les publicains, qui est assez bien connu dans Marc au chapitre 2 ou Luc chapitre 5, qui s'appelle Matthieu d'ailleurs, le même Lévi s'appelle Matthieu dans l'évangile de Matthieu. Donc les publicains qui sont assez connus, mentionnés souvent dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, plus encore, un petit peu plus souvent dans Luc, qui les appelle collecteurs d'impôts plutôt que publicains, mais c'est vraiment la même chose. Donc, ça concerne l'impôt, et des impôts sur les biens, sur les revenus, là, c'est pas une invention de nos gouvernements, ça existait déjà, il y avait plein d'autres taxes dont je ne vous parlerai pas. Souvent, la collecte des impôts était donnée en gestion à des hommes d'affaires à qui on disait, voilà, la population de Jéricho, par exemple, c'est tant de personnes, il y a tant de richesses à peu près, et donc le montant global des impôts, ça va être à peu près tant, et l'homme d'affaires avance l'argent, finalement, il paye lui-même pour les Romains, ce qui ne le rend pas du tout sympathique, n'est-ce pas?
L'occupant, quoi.
Il paye, oui, on est en Judée, donc c'est un protectorat romain. Et donc, il avance les sommes et ensuite, il fait collecter. Donc, il a des employés qui font le tour des maisons, évidemment, et qui collectent les impôts. Alors, voyez, il doit payer ces gens-là, il doit percevoir un intérêt sur son argent. Et puis, donc, il y a des surplus, là, on ramasse un petit peu plus que ce qu'on paye. Et voilà où les problèmes commencent. Est-ce que les surplus sont raisonnables ou est-ce qu'ils sont... abusif, on pourrait dire, et c'est clairement un système qui favorise les abus à tous les niveaux, c'est-à-dire que chacun collectant le montant et le remettant à son supérieur en prend un peu plus, peut en prendre un peu plus pour, disons que je ferai pas de jugement, mais en tout cas, peut en prendre un peu plus pour en mettre dans ses poches. Alors, c'est la perception que l'on a, en tout cas, des collecteurs d'impôts. C'est pas moi ou vous, la perception qu'on trouve dans les textes grecs, dans les textes romains.
Des études ont été faites là-dessus.
Oui. C'est pas juste les juifs, là, qui sont des méchants qui excluent le pauvre publicain. Les textes grecs et romains, je le rappelle, je le mentionnais, je pense, la semaine dernière, montrent que les publicains ou les collecteurs d'impôts sont jugés rapaces, des hommes durs, sans pitié. Alors, c'est sûr qu'en plus, on est à Jéricho, donc ils travaillent pour les Romains, ça le rend encore plus antipathique. C'est à ça que renvoie l'expression chef de collecteur d'impôts. C'est comme ça que les exégètes la comprennent. Alors, il y a des chances qu'effectivement, Zachée soit un vrai pécheur, c'est-à-dire au plan éthique, quelqu'un qui joue dur, qui empoche un peu plus qu'il devrait, qui est pas très honnête ou qui a la conscience un peu élastique, ça va? Le jugement de la foule qui dit « Jésus est allé loger chez un pécheur » est vraisemblablement un jugement fondé. C'est pas les pharisiens ici qui portent le jugement, c'est la foule. Hein. C'est le bon monde comme vous et moi là de Jéricho qui disent « Jésus est allé chez un pécheur ». Et de toute manière, ça semble aussi être un état assumé par Zachée lui-même hein, qui prévoit pas s'approcher de Jésus. Il reste à distance, justement, comme l'autre de la parabole hein, qui reste à distance et qui dit « Aie pitié du pécheur que je suis ». Bon, alors, Zachée lui-même, d'ailleurs, va dire aussi « Si j'ai fait du tort, je vais rembourser ». Bon. C'est clair que...
Vous avez raison, c'est l'actualisation de la parabole, quoi. Il se tient loin.
Il se tient loin et il se reconnaît jusqu'à un certain point pécheur en disant « si j'ai fait du tort ». Donc, j'insiste là-dessus parce qu'il y a une nouvelle tendance chez quelques exégètes peu nombreux à considérer Zachée non pas comme un pécheur, mais plutôt comme un juste qui serait méprisé à tort, hein, qui serait méprisé parce qu'on méprise automatiquement les publicains et qu'on les considère automatiquement comme des pécheurs.
C'est ça. Il est classé par son métier,
oui,
quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Et bon, certains exégètes disent, mais non, regardez, lorsque Zachée va dire, « Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et je rends quatre fois si j'ai fait du tort », les verbes sont au présent. Donc, Zachée est en train de dire ce qu'il fait habituellement, Et il est finalement comme en train de dire à Jésus, regarde, je suis jugé à tort comme un pécheur parce que moi, je donne mes biens. Ces deux verbes-là sont au présent. Donc, certains exégètes vont dire, ben voilà, Zachée nous montre qu'il agit habituellement comme un juste et qu'il est jugé comme pécheur à tort.
Ah bon.
C'est pas bon. Très répandu, c'est pas suivi par la majorité des exégètes. C'est bien sûr, c'est pas absolument impossible non plus. Ces gens-là sont intelligents et compétents aussi. Avec bon, ils soutiennent une hypothèse qui peut être défendable. Le problème, à mon avis, puis là-dessus, je partage l'opinion de la majorité des exégètes, c'est que c'est pas comme ça que Luc utilise habituellement le personnage symbolique aussi des publicains et des pécheurs publics. Il les utilise, comme dans Marc et Matthieu aussi, mais c'est encore plus fort chez Luc, ils sont utilisés pour illustrer la pratique de pardon. Hein? Jésus accueille des pécheurs, pas seulement parce qu'ils sont des exclus avec lesquels personne ne veut avoir de contact, mais pour leur offrir le pardon. Alors, s'il y a quelque chose à pardonner, ben c'est parce qu'il y a des pécheurs. Et ils sont pas seulement des exclus. Ouais, c'est les pécheurs que Dieu cherche, que Dieu appelle. Et c'est bien le sens de la finale de notre récit. Hein. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. S'il s'agit pas de Zachée, cette phrase-là n'est pas à sa place. Là. Mm-hmm. Donc, peut-être qu'originalement, dans le récit, c'était un juste méprisé à tort, mais en tout cas, dans l'Évangile, c'est présenté comme l'histoire d'un pécheur. Avec ce que ça a de choquant pour nous, hein. C'est pourquoi on a aussi, nous, parfois, en tout cas, je vois ça chez mes étudiants, tendance à dire « Ouais, mais c'est un exclu, hein, et Jésus est compatissant. » Mais non,
ça va
pas
plus
enlever
loin que
ce qu'il y a de choquant, c'est un pécheur. C'est vrai que c'est aussi un exclu, mais c'est limitatif. Il y a là l'aspect choquant de Jésus qui fait un accueil à des vrais pécheurs et qui va loger... Au fond, si vous et moi, Claude, on avait été à Jéricho, c'est pas chez nous qu'il serait venu loger. Je veux pas dire qu'on n'est pas des pécheurs, là, mais... Vous voyez, il va chez le plus notoire des pécheurs. Mmh. Il va pas chez les bonnes gens. Et alors, c'est la réaction normale de la foule, exactement comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue, qui dit, c'est ça, moi, je fais tout ce qu'il faut, là, puis tu fais une fête à l'autre qui est parti puis qui a dépensé ton argent. C'est choquant. Donc, gardons l'aspect choquant. Alors, notre Zachée est dans son arbre, hein, on le voit, c'est un récit qui se prête à la visualisation. Il a lui-même, je dirais, intériorisé le jugement des gens sur lui, il le porte sur lui-même, il se considère comme un pécheur, il reste en retrait. Il sait qu'il peut pas approcher de Jésus qui est présenté comme un homme de Dieu, si on veut. Et donc, il se place là où Jésus va passer. On a le même verbe au début du récit. Hein. Jésus traverse Jéricho, c'est Jésus passe à Jéricho. Et Zachée se place où Jésus va passer. Ce même verbe répété deux fois. C'est amusant parce que Jésus, au lieu de juste passer, il va s'arrêter. Mm-hmm. Passer, c'est passer sans s'arrêter, justement. Mm-hmm. Donc, il s'arrête et il interpelle vivement.
Hein. Vivement, hein, ouais. Ouais. Descends vite, oui. Car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison.
Oui,
il lui parle à l'impératif.
Ah hein. Oui, tout à fait. Puis c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Hein. Il donne des ordres, Jésus, ici. Mais il précise bien, là, il faut qu'on remarque peut-être pas suffisamment.
Mais qui revient très souvent chez Luc.
Oui, qui revient souvent chez Luc. Il faut que, c'est comme un impératif pour lui. Lui aussi est soumis, Jésus, à un impératif. Hein? Il faut que je fasse ça. Ça nous est familier pour les annonces de la Passion. Hein? Il faut que le Fils de l'homme soit livré, tout ça. Mais chez Luc, là où ça vient dans des textes propres à Luc, le « il faut que » est associé à la mission de Jésus, qui est de révéler Dieu. Je donne juste un exemple, disons en 4:43 dans Luc. « Aux autres villes, il me faut annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Comme ici, le Fils de l'homme est venu pour... » Vous voyez, c'est donc... le « il faut », c'est la mission. Et ça nous dit ce que Jésus est en train de faire. La présence du « il faut » dans la phrase... nous prévient de ne pas considérer l'attitude de Jésus envers Zachée comme une sorte...
de condescendance,
oui,
quoi.
Oui, ou d'élan imprévu de sympathie, parce que nous, on trouve Zachée sympathique, grimpé dans son arbre, et puis c'est correct, je dis pas que Jésus l'a pas trouvé sympathique, mais le « il faut que » nous dit que c'est bien plus que ça qui est en jeu, c'est l'impératif de la mission. Jésus met en place une stratégie de salut, une procédure concrète de salut, comme il le fait dans d'autres récits de l'Évangile, où il doit manifester un Dieu qui accueille le pécheur, qui offre son salut gratuitement et qui cherche celui dont on penserait que jamais il pourra revenir à Dieu. Hein. Et il est venu appeler les pécheurs à la conversion. Hein. C'est ce qu'on a dans Luc 5, à l'appel de Lévi, les publicains. Donc, c'est un impératif qui s'impose à Jésus. C'est la mission.
C'est un impératif pour lui-même,
pour
d'abord.
Lui-même, c'est ça.
Réaction de Zachée maintenant.
Ben oui, hein, la joie, la rapidité, donc le thème de la joie qui est fondamental chez Luc. Ça rappelle Lévi aussi. Dans Luc, quand Jésus appelle le publicain Lévi, Luc précise que Lévi lui offre un grand festin. Un méga, c'est le mot est là, un méga festin. Donc, c'est le festin est propre à Luc. La fête, la joie, on se rappelle encore les paraboles hein, du fils prodigue. Quelle est la joie, la source de cette joie, que ce soit Lévi, Zachée ou les gens des paraboles, c'est que ces pécheurs ne sont pas enfermés par Jésus dans le jugement qui pèse sur eux, hein, un jugement qui les exclut de la relation à Dieu. Donc, c'est la joie de Zachée, c'est la joie de Lévi et des pécheurs. Il ne faut pas oublier que dans Luc, c'est aussi la joie de Dieu de retrouver le pécheur qui est perdu. C'est la joie du Père de retrouver le Fils perdu. C'est là, il y a plus de joie dans le ciel. Bon, chapitre 15, ça va. Faut pas perdre ça de vue. C'est pas seulement la joie du pécheur, c'est la joie de Dieu qui retrouve. Hein, le vocabulaire des pertes et des retrouvailles chez Luc est une image forte là, pour dire Dieu. C'est comme si Jésus agissant ainsi révèle à Zachée qu'il est plus que ce qu'il croit. Il est aussi un fils d'Abraham. Déjà, Jésus le lui dit par son attitude avant de le dire plus loin en mots. Hein. Alors, on pourrait dire que c'est de recevoir ce nouveau regard sur lui-même qui fait que Zachée change. Il accueille cette révélation d'un Dieu qui le prend comme il est, qui l'accepte comme il est, qui lui offre un salut gratuitement. Ça déclenche la conversion de Zachée. Ça l'amène à changer. Et c'est ce qu'il va faire. Il va annoncer ce qu'il va faire à partir de maintenant. Donc,
avec des verbes qui sont au présent. Quoi.
Oui, mais qui expriment, voici ce que je fais maintenant. Je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Je vais réparer 4 fois. Donc, vous voyez, c'est comme si Zachée se découvrait capable d'autre chose parce que Jésus l'a perçu comme quelqu'un capable d'autre chose. Il répond finalement à l'attitude de Jésus. Il n'est pas en train d'acheter son salut, hein, je signale. Il dit pas « je vais faire ça pour être sauvé », mais plutôt…
Je me reconnais.
Je me reconnais sauvé.
Je me reconnais sauvé
donc,
par voie de conséquence.
J'agis ainsi, c'est ça. Et d'ailleurs, sa conversion porte vraiment sur le terrain de l'argent, c'est son terrain. Il dit pas qu'il va changer de métier en passant. Hein. Il va rester chef de publicain, oui. Peut-être il sera encore jugé pécheur, mais son rapport à l'argent change. Il le met au service de ses relations aux autres désormais. Les autres sont ce qu'il vise. Alors, ceux qui en manquent d'argent, ceux qui ont été lésés ou abusés ou exploités. L'argent, désormais, est pensé en fonction de la relation aux autres et non pas pour être accumulé en lui-même.
C'est ça. Et comme vous le disiez si bien, il n'agit pas ainsi pour acheter son salut, pour dire, bon, bien, en échange de ta visite chez moi, puis tout ça, c'est pas ça. C'est que je me reconnais choisi et aimé par toi. Je reconnais que je suis un fils de... Grâce à toi, tu me dis, je suis un fils d'Abraham et tout ça. Alors, par voie de conséquence, je vais me comporter comme...
Oui, on pourrait le dire avec d'autres mots. Puisque Dieu est si généreux avec moi, ça me rend capable d'être généreux. Hein? On pourrait le dire comme ça. Il me semble qu'il y a des liens avec le récit de celui qu'on appelle le jeune homme riche, mais qui n'est pas dit jeune dans Luc, qui s'en repart tout triste. Alors que Zachée est dans la joie.
Lui, le fidèle observateur de la Torah.
Alors que Zachée est un pécheur. Alors. Voyez, il y aurait des liens à faire et qui sont un petit peu interpellants puisque Zachée ne donne que la moitié de ses biens alors qu'à l'homme riche, Jésus demandait de donner tous ses biens. Ça m'inquiète de savoir ce qui est devenu cet homme riche.
Bien. Alors, vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone, Claude Julien, je vous souhaite un bon week-end à notre antenne et je vous donne rendez-vous donc samedi prochain à la même heure.